suis pas vraiment orléanaise.
Mais vous habitez de Orléans depuis un certain temps.
Oui, 10 ans, mais bon, c'est pas pour autant. Ouais. Peut-être un peu plus maintenant. Mais bon, je suis originaire de Sologne. D'accord. Sologne du Loir-et-Cher, hein, en fait, à côté de Vierzon. À deux pas du Cher. Donc, il y a certainement des expressions qui viennent pas d'Orléans, ça c'est sûr. Et puis, en plus, quand on est du milieu agricole, il y a quand même beaucoup de mots qui passent et qui sont pas forcément, qui sont plutôt d'origine paysanne. Et oui, je suis pas sûre que celle-là soit vraiment d'Orléans. C'est parce que, en fait, ben après, ça dépend, parce qu'effectivement, dans l'Orléanais, il y a une partie. Enfin, dans l'Orléanais, est-ce qu'on peut appeler ça l'Orléanais? Dans le département du Voiry, il y a quand même une petite partie de Sologne, où ça peut, on peut peut-être retrouver un peu les mêmes déformations du français, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment. Ça ne correspond pas en général au Beauceron.
Non, mais nous, de toute façon, on a des enregistrements de gens qui viennent du Midi, en fait, qui sont Orléans depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment pour avoir un point d'ancrage, dire on fait Orléans. C'est des gens qui habitent depuis un certain temps. Donc, pas depuis hier, mais depuis quelques mois, quelques années. Mais bon.
Mais des fois, souvent, on connaît mieux une ville quand on y est pendant un court temps et puis qu'en fait, on essaie de voir un petit peu tout ce qui se passe plutôt que quand on y est depuis longtemps et puis qu'on s'est plus ou moins installé sans vraiment s'installer comme moi. Et que ben, en fait on visite une petite partie d'Orléans mais pas du tout. J'ai jamais été par exemple aux fêtes de Jeanne d'Arc, jamais.
Ah bon, bah c'est bientôt.
Oui, mais je n'ai pas du tout envie d'y aller. Les fêtes en elles-mêmes seraient certainement très intéressantes, mais en fait, vu que je fuis la foule, du coup, ça devient plus du tout intéressant quand on veut pas avoir de foule, pas être bloqué constamment pour aller à un truc. On va pas à Orléans à ces moments-là.
Ah, bah oui, mais c'est un peu.
Voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis un peu plutôt installée à la périphérie de la ville, parce que rien que de me dire qu'il faut que j'aille en centre-ville, c'est toujours bon, non. Une autre fois. Moi, c'est plus ce style-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'Orléans, j'en connais que des brides, des fois plutôt par les autres que par moi-même.
D'accord. Bon, on va voir ça.
Ouais. Je pense que, tu sais, ça devrait être bon maintenant. Vous voyez tout ça.
J'ai des questions sur le logement, heureusement c'est pas loin, parce que là, je peux dire pour l'enregistrement que nous ne sommes pas chez vous.
C'est au-dessus.
Moi je disais à votre voisine, c'est marrant l'agencement là. Peut-être c'est une maison qui a été découpée.
Tout à fait. C'est une maison, c'est une ancienne ferme. C'était un arboriculteur qui était là. Puis il reste quelques petites parcelles d'arbo disséminées, mais avant toutes les parties neuves là, c'était des champs de pommiers, de poiriers. Et donc en fait, il y a le hangar qui reste, qui a dû être une construction, on va dire plus récente. Et il y avait un comment ça s'appelle, un pour faire de l'alcool.
Un distillateur.
Oui, mais je sais plus comment ça s'appelle, le terme vient pas. Tout alambiqué. Alambic, il y avait un alambic, justement. Il y avait un alambic sous le hangar. Il y a encore la cloche pour faire sortir, qu'on pouvait monter pour faire sortir la cheminée. Et puis, il y a deux niveaux de cave en dessous. Et dans les deux niveaux de cave, c'était pour mettre les fruits, et puis pour faire un certain nombre de petits trucs. Je ne pense pas qu'ils devaient faire du vin.
Les endives et les champignons.
Un petit peu, peut-être un peu d'endives, mais bon, les endives, c'est quand même plus récent hein, dans les utilisations. Donc en fait, par contre, effectivement, dans les dernières années, ils faisaient ces endives ici. Alors que la maison, elle lui appartenait encore. Il venait exprès faire ses endives, alors d'abord au deuxième niveau. Et puis ensuite, au premier niveau, parce qu'il commençait à devenir un peu âgé. Puis bon, vu qu'on n'utilisait pas la cave, vu qu'elle est trop humide, c'était pas gênant du tout qu'il vienne y faire ses endives. Donc il avait aménagé un petit truc. Et puis, bon, ça fait des années maintenant, c'est sa fille qui a repris la maison.
Ouais.
Hop, donc elle d'origine effectivement agricole, mais par contre rien à voir, avocate, puis elle est maintenant magistrat à Paris. Donc, je vous voulais du miel ou
ah
pas?
Ah ouais, je veux bien. Ouais.
Par contre, les petites cuillères en plastique, c'est dommage, j'ai pas pensé à amener parce que moi je suis pas vraiment plastique. Bon, je suis pas sûre que vous en ayez suffisamment avec ça. Moi, je suis une grosse gourmande, donc. Hop.
C'est vrai que c'est joli, là, le quartier. Moi, je connais pas du tout. Là, Moi, c'est le contraire. Je suis du côté d'Orléans, donc c'est vrai que. Là, c'est bien pour les entretiens, ça me fait voyager à droite à gauche.
Oui.
Il y a des jolies maisons, et puis il y a plein d'arbres.
Il y a de très belles maisons, de très beaux jardins dans le coin, c'est magnifique. En fait, on voit les maisons comme ça en extérieur, et quand on regarde, il y a des très très grands jardins qui donnent par l'arrière. J'ai découvert un jour comme ça, parce que j'ai un de mes chats qui s'était fait la malle, et ça faisait depuis quand même 4-5 jours, ça a duré 10 jours, je me suis pris des angoisses. Je suis une mère chat. Et ce chat, en fait, en cherchant la plante, du coup, j'ai fini par découvrir le quartier. J'ai découvert qu'il y avait une petite venelle là. Et quand on prenait cette venelle, en fait, on a une vue sur les jardins qui sont très très longs, très très grands. Et on ne s'attend pas du tout à ça quand on voit les maisons de ce côté-là, quoi.
Ouais.
Mais bon, on aurait dû y penser parce qu'effectivement, il y a des trous entre deux. Il n'y a pas que les bordures de rue. Et en fait, on aboutit à des très 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 grands jardins qui sont magnifiques d'ailleurs. Et bon, on ne s'attend pas spécialement à ça. C'est un moyen comme un autre de découvrir le coin.
Donc, pour reprendre la trame,
ça serait peut-être mieux.
Donc, j'ai commencé par vous demander depuis combien de temps alors vous habitez Orléans.
D'abord de façon. Interrompu, j'ai dû commencer à venir ici en 91. Je suis revenue ici en 92. Je suis revenue ici en 93, en 94. Et j'habite dans ces bâtiments-là, d'abord ici et ensuite au-dessus, depuis 95.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à vivre ici particulièrement ?
Sur Orléans,
ouais.
Le travail.
Mmh.
Je suis venue avec le travail. Parce que en agriculture, il vaut mieux se retrouver sur les grosses métropoles, n'exagérons rien, enfin sur les grandes villes. On a plus de chances d'avoir du travail que sur des petits villages ou des choses comme ça où il y a un peu plus de difficultés, surtout dans le type de travail que je voulais avoir. Où là c'était plutôt du travail régional, donc il fallait au moins aller à la région. Et je me suis retrouvée à travailler avec la protection des végétaux, le service régional de la protection des végétaux, qui est un service de l'État, qui d'ailleurs n'existe plus maintenant, c'est le SRAL, service régional de l'alimentation. Et pour une entreprise, la Fredon, qui est une association qui travaille en collaboration donc avec le SRPV. Et on travaillait au niveau de la région, d'abord pour faire de l'expérimentation, faire des tests de produits phytosanitaires pour l'agriculture, les désherbants, insecticides, fongicides, à tester pour voir leurs efficacités, et puis d'autres activités telles que celle la plus intéressante qui était des suivis de culture pour pouvoir donner des informations aux agriculteurs pour en fait donner un état général des cultures pour qu'ils sachent si ils ont quelque chose à faire. C'est une sorte d'alerte en fait pour savoir si oui ou non il y avait telle ou telle bestiole ou telle maladie présente sur le département ou la région, et s'il fallait qu'ils soient attentifs à ça et du coup pouvoir intervenir ou pas, parce que ça il y a toutes les informations dedans, enfin il y avait, parce que ça n'existe plus non plus, comme le SRPV, c'est un petit peu
tout disparaît.
Voilà, c'est un petit peu le but de la disparition, c'est que c'est l'arrêt des avertissements agricoles. Donc en fait c'était des petits bulletins qui étaient hebdomadaires et qui devaient donner des informations pour les guider en fait sur les bonnes pratiques agricoles, notamment les limitations de produits ou inversement la sauvegarde de leur culture. C'est trouver un juste milieu entre les deux.
Peut-être éviter de mettre trop de...
Aussi. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ça devait essayer de, en fait, les aider à avoir une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui se disait et avoir un pendant, un discours un peu différent des discours de ceux qui vendaient des produits et qui devaient un peu pousser à la consommation. Et donc ben, pour ça, il faut avoir des informations sur le terrain, avec une réalité de ce qui se passe sur le terrain, même si elle est incomplète, pour que si jamais ils voient autre chose, qu'on puisse aller confirmer, infirmer. Et c'est le seul moyen, en fait, c'est de pouvoir avoir une réalité terrain pour répondre aux dires de certains qui disent « Ah, attention, il y a plein de choses !» Ben, attendez, nous, on a été voir, on n'a pas vu plein de choses.
Vous faites une étude des cultures ou des sols, les deux ?
C'est pas une étude, c'est un suivi. Parce qu'une étude, on se penche sur un problème particulier, en règle générale, on ne peut pas tout voir dans son ensemble, un problème particulier, et puis on réfléchit bien dessus, et puis on rend le résultat bien en retard par rapport à... bien après par rapport à un problème, parce qu'il faut quand même un certain temps pour d'abord voir ce qui se passe, essayer de prendre en compte tous les composants, essayer de faire varier des composants pour voir ce que ça donne, etc. Là non, c'est on fait un suivi au jour J, et on donne une réponse assez rapide derrière pour donner un état un commentaire très rapide par rapport à des seuils d'intervention, par rapport à des évolutions, si on peut ou pas traiter, si tel ou tel produit a disparu ou pas, par rapport du coup à toutes ces listes de produits qui existent et si en fait certains sont retirés ou pas de la vente ou de l'utilisation. Donc vu que c'est rapide, c'est aussi pour pouvoir contrebalancer l'information aussi en face qui est rapide. Tu peux laisser le miel parce que j'ai servi de thé. Merci.
Oui, donc c'est amusant, vous êtes venu en ville pour pouvoir vous occuper de la campagne.
Exactement. Mais parce que le souci, c'est que moi j'ai plein de collègues du travail qui se sont plutôt installés autour. Très peu se sont vraiment installés dedans. J'ai des collègues qui font 40 à 50 km pour venir travailler parce qu'ils ont vraiment voulu aller. Leur but, c'était pas de venir en pleine ville. Parce que souvent ça colle pas avec souvent on est parti dans des choses comme ça, c'est parce que on aime plutôt la nature. Donc ils se sont écartés et puis moi c'est plus facile de trouver des logements sur Orléans qu'ailleurs. Merci Mika.
Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ou qui vous déplaît ? Déjà, le centre-ville, ça vous plaît pas trop, c'est pour ça que vous êtes venu ici ?
Alors, le centre-ville en lui-même, non, parce qu'en fait, je me suis retrouvée déjà à loger dans un foyer de jeunes travailleurs et puis être toujours embêtée à essayer de trouver des emplacements pour se garer, trouver... Parce que en fait, avoir des vies des fois un peu décalées en fonction du travail, que je ne sais pas forcément toujours à quoi ça va mener. Donc du coup, je sais à quelle heure je pars, je ne sais pas forcément à quelle heure je reviens, ou des fois ça m'arrive de partir plus tôt et de revenir plus tard, ou inversement. Mmh. Et c'est vrai que je ne suis quand même pas une abonnée au transport en commun. J'ai la chance d'une voiture. Il y en a qui diraient oui, mais ça te coûte cher. Bon.
Une certaine, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté.
Mais il y a une certaine liberté que de toute façon, je ne voudrais pas perdre. C'est sûr que de toute façon, la ville, c'est, pour moi, c'est une perte de temps. C'est incroyable. C'est une perte de temps. Il y a des choses jolies, mais c'est souvent que je n'ai pas le temps d'aller. Donc les jours où je suis cool, ça ne me gêne pas. Par contre, les trois quarts du temps, je n'ai pas le temps. Donc déjà d'y aller, de tourner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour trouver une place, ça me déplaît prodigieusement. De faire les magasins et de tomber sur la foule, ça me déplaît énormément. J'aime bien la foule, mais à partir du moment où elle est contenue et loin de moi. Sauf si je veux aller à une fête ou un truc comme ça, dans ces cas-là, ça va très bien, mais sinon, parce qu'en général, j'ai un bon contact avec les gens et je suis plutôt une grande bavarde. Mais c'est vrai que j'en vois plus la contrainte que les avantages. Les avantages, c'est que bon, on a quand même un certain nombre de choses sous la main, au niveau des magasins, au niveau du choix, au niveau. Après, faut-il encore avoir le temps d'aller aux horaires d'ouverture dans les magasins qu'on veut.
Donc le centre-ville, vous le pratiquez pour certains magasins de temps en temps.
Voilà, rarement d'ailleurs pour les magasins, c'est plus pour des activités. À un moment donné, j'avais des répétitions en plein centre-ville. Quand c'est dans les heures, ça va bien. Quand c'est décalé avec les horaires des autres, c'est bon. Mais quand ça tombe en même temps que les autres et qu'il faut tourner pendant trois quarts d'heure pour trouver une place,
oui, parce qu'on gagne.
Là, ça commence vite à me déplaire. Ça commence vite à me déplaire.
Ouais. Et pour tout ce qui est courses alimentaires, etc.
Grande surface.
Dans le coin, là.
On est à 10 minutes de Auchan, de Carrefour. J'ai un petit producteur, enfin pas un producteur, j'ai un petit on va dire grossiste de fruits et légumes pas très loin. Donc je suis très contente de ce que je trouve, ou alors je m'arrête chez des producteurs de légumes que je vais voir assez régulièrement.
Oui, forcément, vous connaissez un petit peu.
Voilà, du coup je sais comment ils travaillent, je vais voir des producteurs bio, je vais voir des producteurs en conventionnel. Donc bon, vu que maintenant je travaille dans les légumes, dans l'arbo, dans la grande culture, c'est bon, chez mes sources.
Vous allez vous entrer. Et ce quartier là, il a un nom particulier?
C'est le quartier des aides. Il y en a, enfin les aides Blossières, on est juste les uns à côté des autres. Il y a la mairie des Blossières qui est juste là. Ça fait un petit quartier, mais en fait je connais très peu de monde dans le quartier. C'est vrai que par rapport au quartier, je connais un peu plus de monde depuis qu'il y a Malika, parce que Malika aussi discute beaucoup avec les gens et discute avec les voisins, alors que moi c'est vrai je discute avec les voisins, mais souvent à des moments où vous n'avez pas spécialement le temps, je leur disais un petit bonjour, un petit au revoir, puis point quoi. Donc vu qu'elle a aussi le contact facile, du coup on va voir la voisine là. De temps en temps on a une voisine qui fait des stages de fleurissement et de déco avec des fleurs naturelles juste à côté. Il y a des choses juste dans le coin.
Oui, vous êtes vraiment à la limite. Quand vous m'avez dit au téléphone, c'est juste avant de rentrer dans Saran, et fait, il y a le panneau, et c'est juste
exactement.
Le feu, le panneau.
Exactement, oui, c'est vraiment là. On est sur la bordure d'Orléans. Donc, en fait, souvent j'ai plus de contact avec Saran, parce que je vais y faire des cours de djembé, du coup je connais quelques personnes comme ça. Alors que sur Orléans, toutes les activités souvent qu'on est amené à passer, c'est en centre-ville et du coup, on ne connaît pas forcément des gens du quartier. C'est l'inconvénient des grandes. Mais ou alors il faudrait participer. Il y avait des fois des activités sur le secteur là, mais c'est souvent des moments où j'avais pas le temps. Donc dans les soirées, dans les week-ends. Bon, c'est vrai que. Quand les faire autrement, ils sont pour rien.
Oui, vous aurez des journées 36 heures.
ouais, 48, ça serait encore mieux, je crois.
Et donc, avant Orléans, vous étiez où ?
En fait, ça a été ma première grande ville où j'ai trouvé du boulot plus régulièrement. Si avant, j'ai fait des petits séjours à Blois, j'avais trouvé un petit peu de boulot sur Vierzon, j'avais trouvé un petit peu de boulot sur... qu'est-ce que j'avais fait encore ? Dans le Cher, un peu plus bas, en dessous de Bourges. Et ensuite, ben, une fois que j'ai commencé à trouver du boulot sur Orléans, je suis souvent venue. Les premiers boulots que j'ai trouvés sur Orléans, c'était quoi ? C'était 91, 92, 93 de nouveau sur Orléans. Puis après, 94, j'ai été embauchée en CD, en contrat à durée déterminée.
Plusieurs fois.
Pendant 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Mmh. Changer d'entreprise. Mais toujours dans la même, pour faire la même chose.
Oui, d'accord. Bah oui. Encore beaucoup plus à la mode de nos jours.
Oui, mais déjà là, c'était beaucoup à la mode pour certaines. Du coup, ils se sont améliorés, mais les autres, ça a dégénéré. Mmh. Mais eux connaissaient ça depuis longtemps.
Et par rapport à votre famille, donc vous m'avez dit c'est plutôt Sologne.
Alors mes parents sont en Sologne, mais j'ai une sœur qui habite pas très très loin, j'ai dit. Mmh. Mais bon, on est 6 enfants, ils sont un peu répartis. J'en ai un en Normandie, l'autre à Pau, une à Paris, une dans le Cher qui est du coup pas très loin de chez mes parents, une ici, qui est-ce que j'ai oublié, c'est tout, c'est bon. Donc il y a quand même un espace entre celui qui est à Pau. Il y a deux garçons, il y en a un qui est parti à Pau, puis l'autre qui est parti à côté à côté de Dieppe.
D'accord. Donc vos parents, ils faisaient quoi
Oui, ils sont toujours vivants tous les deux. Ben, mes parents, les deux, sont de souche agricole, de souche paysanne. Donc ma mère était mère au foyer, puis ensuite elle s'est occupée de personnes âgées. Mmh. Et par contre mon père a commencé dans la partie agricole au tout début. Il a été exploitant, fermier. Et en Sologne, c'était pas une époque où c'était bon d'être fermier. Il élevait bien les lièvres, les chevreuils, les cerfs, mais lui, il avait un petit peu du mal à s'en sortir. C'était vraiment en toute bordure de forêt. Et donc, ils ont dû un peu arrêter les frais. Et donc, du coup, il a travaillé dans le bâtiment. Il a travaillé dans le bâtiment, il était menuisier. Enfin, il a fait un petit peu tous les boulots jusqu'à arriver à la menuiserie. Et il a fini... par la menuiserie bois et métal, bois et alu, dans une entreprise jusqu'à ses 61 ans, qu'il a maintenant bien dépassé. Il a 83 cette année.
Oui, c'était juste pour savoir si la famille était dans la région, même si c'est pas l'Orléanais, c'est la grande... Région Sologne.
C'est la grande région, c'est la grande région centre. Mmh. Mais par contre, ma mère est issue de, enfin, elle était issue. Elle est née en Normandie. Ses parents sont partis. Son père a voulu s'installer pendant la crise. C'est laquelle ? 29. Où il y a eu des gros cracks boursiers. Et il s'est installé à cette époque-là, ce qui fait qu'en fait, au moment où il s'est installé, il a acheté un truc et après, il fallait qu'il rembourse plus cher. Donc, il s'est très rapidement cassé la figure. Mmh. Et du coup, il a dû abandonner. Et ensuite, il est venu par différents stade intermédiaire, finalement, il est devenu fermier en Sologne, dans le Cher.
D'accord. Vous avez des enfants ?
Non. Non, du tout.
C'est des questions sur famille ascendante, famille descendante. Donc, je ne vais pas vous poser des questions sur les écoles, les établissements privés. ces choses-là. Et donc, on a parlé beaucoup de, des activités, mais dans le quartier lui-même, il y a des équipements, il y a des équipements sportifs
Alors
pour
là,
les gens du quartier.
Je ne suis pas vraiment au fait de ces trucs-là. Je sais que il y avait un moment donné, ils nous mettaient des petits trucs parce qu'il y avait des animations, quelque peu d'animations, mais en fait, s'il y a, je suis pas au courant. Mmh. C'est ça de ne pas être trop disponible, du coup on communique pas avec ses voisins. Et en fait, s'il y a des petites choses là, il y a un peu de d'équipement sur Saran, et sinon quand les filles voulaient aller courir ou autre, elles allaient au stade qui est sur la Nationale 20. Pas très loin du c'est pas du Quick, c'est pas très loin du au rond-point, si c'est le Quick, pas très loin du Quick. Donc quand on est au rond-point là, avec, ah bah oui, mais si vous êtes pas trop au centre de tri non plus.
Non, pas trop. Enfin, je connais pas mal de choses de nom, mais deux fois à Saran pour aller acheter des meubles.
Bah, de toute façon, il y a un gros rond-point avec des espèces de. Une fontaine avec des espèces de flammes, là. Et puis quand on remonte juste après, là, il y a un stade sur la droite, en partant vers Paris. Ouais. Donc elles allaient. Et puis sinon, en piscine, ce qu'il devait y avoir de plus près, ça doit être Saran. Puis après, sinon, les équipements, ce qu'il y a beaucoup, c'est par rapport à des écoles, mais est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Je suis pas sûre. Mmh. Et je suis pas spécialement sportive, donc c'est pas le truc.
Ouais. Justement, on va parler de votre métier qui vous prend pas mal de.
Bah oui, plus ça va, plus temps. Ça me prend du temps, oui. Ouais.
La question, c'est, ça consiste en quoi? Donc on a déjà parlé, c'est le.
Mais ça a un peu changé depuis.
Ouais. Enfin, vous le qualifiez comment, vous, le terme? C'est technicienne agricole?
C'est technicienne agricole, tout à fait. C'est même un petit peu plus que ça, c'est conseiller agricole. Conseiller agricole, c'est. Donc effectivement, au tout début, quand j'avais débuté, j'étais quand même plutôt formée par rapport aux grandes cultures. Maintenant, c'est aussi bien grandes cultures, arbres, légumes, et puis maintenant vignes. Donc en fait, c'est beaucoup la recherche d'informations sur le terrain. Et maintenant, ce qui s'est beaucoup développé, c'est des suivis très, très spécifiques, des suivis très techniques, des suivis qui se font à la binoculaire, donc plutôt en labo. On nous envoie des échantillons et nous on regarde ce qu'on voit. Donc du coup on perd un petit peu l'aspect terrain, qui normalement ils ont l'impression qu'on peut facilement détacher l'un de l'autre. Et on a beau leur dire que non, ils le comprennent pas comme ça. C'est dommage.
C'est l'autre fois quand j'ai téléphoné, vous me parliez que vous aviez une expérience à finir ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ça doit vouloir dire que vous êtes dans un labo, enfin vous analysez des choses.
Je devais être en train de. Qu'est-ce que j'étais en train de fabriquer? Je devais être en train de faire des suivis d'insectes.
Ah oui, je crois que vous m'avez parlé de.
Ouais. Maturation de. C'est des dissections d'insectes.
Des dissections. Ouais.
On regarde où en sont les. Où en est la maturation des insectes des femelles. Parce que, en fait, en fonction. Si les femelles sont matures, ça veut dire qu'elles sont prêtes à pondre. Ouais. Et dans ces cas-là, sur le terrain, on doit pouvoir voir déjà des piqûres. Et en fait, le but de la manœuvre, c'est d'arriver à savoir quand est-ce que. Au plus tôt, quand est-ce que ça arrive, pour traiter pas trop tôt. Et donc, de pouvoir passer au bon moment. Si on passe trop tard, on a déjà les premières pontes. Si on passe trop tôt, on va avoir moins de monde. Donc le but de la manœuvre, c'est d'arriver à faire moins d'interventions. Et de faire l'intervention le plus possible au bon moment.
D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez du bio. Vous travaillez aussi, peut-être en contact avec des gens qui travaillent en
bio. En bio, tout à fait.
Beaucoup de traitements, de choses comme ça. Mais
c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de traitement. C'est après, c'est le choix des produits qui est différent. Ça dépend en quoi. C'est-à-dire qu'il y a, pour le bio, il y a des choses, de toute façon, ils ne peuvent pas intervenir, point. Et il y a des choses où ils peuvent faire quelque chose, mais c'est pas une action de traitement. Par exemple, en légumes, ça va être de protéger avec des voiles, des voiles contre les insectes, avant que l'insecte arrive. Mais par exemple, pour d'autres, ça va être d'intervenir, mais avec des produits qui sont des produits avec des origines naturelles, ce qui fait que du coup, ça n'a pas le même impact sur la santé que ce qu'on pourrait utiliser avec des produits issus de la synthèse. Donc en fait, c'est ça que il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils peuvent pas faire. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus limités avec des produits qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes, donc souvent qui doivent être refaits beaucoup plus souvent. Mais bon, il y a aussi beaucoup de recherches qui s'est fait et des luttes qui sont faites avec des insectes.
Oui aussi.
Ou des luttes qui sont faites avec des virus, des bactéries plutôt. Enfin, il y a aussi des virus, mais c'est surtout avec des bactéries. Mais malgré tout, il faut quand même positionner les traitements au bon moment. Parce que c'est quand même des traitements qui sont faits avec soit des champignons en poudre ou des bactéries en poudre qui doivent être pulvérisées, mais qui doivent être pulvérisées au bon moment. Donc après, c'est le suivi des stades.
Et donc vous travaillez dans les deux côtés, en bio et en non-bio.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que de toute façon, on peut apprendre de l'un pour donner à l'autre. Et c'est toujours favorable aux deux, en règle générale. Bon, souvent, le bio a du mal à pouvoir adapter des choses qui se font dans le pas bio, parce que souvent, dans le pas bio, ils ne se posent pas de questions. Ils ont un truc, ils ont une solution à tout trouver chimique. Mais inversement, quand les solutions chimiques disparaissent, ils peuvent retrouver des solutions dans le pas chimique. Parce que les autres, eh ben, ils ont bien dû trouver des solutions. Ouais. Et dans certains systèmes, par exemple en bio, il y a des problèmes qui n'ont plus. Parce qu'il y a des équilibres qui se sont faits.
Comme un bon vieux temps.
Voilà. Et ben, le problème, c'est qu'à partir du moment où on fait des interventions de façon assez intempestive, on zigouille tout, on zigouille les bons et les pas bons. Et du coup, on perd ces équilibres. Et ben, il faut un certain temps pour les retrouver. Et c'est pas forcément. On donne pas forcément la possibilité d'avoir ces équilibres. Mais bon, il y a du pour, du contre, des problèmes qui peuvent effectivement en découler de chaque chose, parce que en fait des prix auxquels les pas bio vendent, on resserre toujours les possibilités, mais du coup on leur limite aussi les possibilités d'intervention, parce qu'à partir du moment où on veut pas leur acheter le produit fini à un prix correct, du coup, eux, ça les empêche de pouvoir avoir des solutions telles que la main-d'œuvre qui coûte au terriblement cher. Si, en fait, ils se sautent certaines solutions qui sont moins onéreuses, bah, du coup, on les pousse à aller toujours dans ce sens-là. C'est du coup, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue et on ne trouve pas du tout la solution. C'est-à-dire que, voilà, c'est un petit peu tout. On voudrait avoir la qualité, la quantité. En bio, de toute façon, c'est sûr, les quantités sont beaucoup plus faibles. Ou alors, en fait, il faut beaucoup plus d'énergie pour arriver à avoir des quantités quand même assez correctes. Mais personne, enfin, tout le monde ne veut pas acheter du bio. Parce qu'automatiquement, les prix sont plus chers. Donc, bon.
Ouais. Et donc vous, pour faire ce métier, vous avez eu quel parcours? Vous avez fait quel...
J'ai fait un BTS agricole. J'ai fait un bac agricole, puis un BTS agricole. Et derrière ça, un petit peu de tout. J'ai fait de l'expé, j'ai fait l'expérimentation en produits phyto et en engrais, de l'expérimentation, enfin les suivis en semences, puis de nouveau l'expérimentation en boîte phytosanitaire. Et puis là, quand je suis arrivée dans cet organisme où on avait une vision un peu plus large, je me suis dit, tiens, c'est ça m'intéresse. Parce que l'expérimentation, c'est de voir avec un petit bout de la lorgnette qu'un seul aspect des choses, alors qu'en fait, là, du coup, d'un seul coup, j'avais une vision beaucoup plus complète. Même si je faisais de l'expérimentation, on avait des thèmes très intéressants, des choses à travailler, on avait des contacts avec des gens et pour de la reconnaissance d'insectes, des choses comme ça. Et du coup, là, ça m'a beaucoup plus plu. Donc, j'ai dit, ben, voilà, ça m'intéresse. Bien qu'on me dise tout le temps, vous savez, cette entreprise-là, elle est faite non pas pour y faire toutes ces années, c'est juste un tremplin. Histoire de faire qu'on aille ailleurs, quoi. Pas qu'elles soient obligées de nous réembaucher tous les ans. Mais bon, ça n'a pas marché, parce que de toute façon, je trouvais ça trop bien. Et je trouve toujours ça trop bien. Parce que malgré tout, en fait, on est dans une petite entreprise, on a une vue assez complète de pas mal de choses, et je trouve ça très très intéressant. Et on a une vue assez globale des choses, et je trouve ça vraiment très sympa. On n'en a pas le côté commercial. On n'en a pas le côté commercial, le truc désagréable où il faut absolument vendre, même si on n'a pas envie de vendre un produit. Donc là, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est plutôt à l'inverse, un peu décalé par rapport à ça. On dit ce qu'on a envie de dire. Mmh. Et là, c'est génial.
Vous n'êtes pas sponsorisé par Monsanto qui vous oblige à.
Voilà, exactement. Voilà, tout à fait.
Mais c'est un service que vous proposez aux agriculteurs, alors eux, il faut bien qu'ils payent vos.
Alors en fait, on travaille peu directement avec les agriculteurs. C'est plutôt des groupements d'agriculteurs qui nous font travailler, des groupements d'agriculteurs. Et puis on travaille maintenant. Donc avant, on travaillait avec le service régional de la protection des végétaux. Maintenant, on travaille avec le SRAL, service régional de l'alimentation, qui en fait regroupe à la fois l'ex protection des végétaux et les services vétérinaires. Ça change un peu l'aspect des choses, parce que c'est vrai que les services vétérinaires travaillent pas du tout pareil. Et on travaille aussi avec la Chambre d'agriculture. Et ma foi, en plus, on a des parties plus environnement. Là, je fais des trucs, c'est très intéressant. On a développé les suivis zéro pesticide. Et les plans de désherbage. Sur Orléans, il y a un suivi qui se fait. La ville d'Orléans a signé la charte zéro pesticide. Et donc dans cette charte, elle s'engage sur un secteur bien défini à mettre en place toutes sortes de suivis sans avoir à faire d'intervention chimique.
C'est bien.
Donc là, le quartier pilote, c'est sur Saint-Marceau. D'accord. Donc toute une grande partie de Saint-Marceau, qui doit être située entre l'avenue Dauphine, en dessous ça doit être la rue de la Cigogne, et puis ce qui remonte de la Nationale 20, comment il s'appelle, l'avenue Secrétin, je crois, ou Secrétin, je ne sais plus comment ça s'écrit, et donc limité par la Loire, donc tout ça c'est le quartier pilote. D'accord. Et donc moi là-dedans, je fais des inventaires de flore.
Ah oui, ça va bien ça. Oui, pour voir ce qui ressort.
En fonction, on a défini quels étaient les différents secteurs, les différents types de pieds de mur, trottoirs, bordure de trottoirs, caniveaux. Et puis on définit dans quel état ils sont, et puis on fait des notations pour ces différents types. Et puis je définis des petites placettes sur lesquelles je fais un inventaire bien particulier, enfin très très strict, avec un nombre de différentes plantes que j'identifie. Et voilà, et donc ça c'est très intéressant. Et donc, par contre, donc, eux, ils sont partis sur les brossages avec des brosses automatiques. Ils font toutes sortes d'interventions, des interventions manuelles, des interventions... je ne sais pas s'ils font des trucs à l'eau chaude, en fonction des zones, avec de la mousse.
Ils brûlent des fois aussi.
Voilà, avec les...
Son petite bouteille de gaz,
voilà, tout à fait, tout à fait.
Ils brûlent les pissenlits qui repoussent.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ils ont mis en place sur ces secteurs-là des trucs bien particuliers parce qu'ils sont en charte zéro pesticide.
Ça crée peut-être de l'emploi aussi, du coup, les cantonniers, ces gens-là.
Alors, le but de la manœuvre, c'est pas de créer de l'emploi. C'est de gérer les espaces différemment.
Mais il faut remarquer le temps qui passait à mettre des pesticides, ils peuvent le passer à,
exactement,
à désherber.
Et du coup, en fait, il faut gérer les espaces différemment pour que, ça ait un aspect différent. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, ils sont pas habitués à avoir de l'herbe, ils sont plus habitués à avoir de l'herbe. Et alors, dès qu'on dit herbe, c'est crade. Non, on reformule. Non, ce n'est pas. Alors, de deux choses l'une. Soit, si vous êtes mécontent de ça, coupez-le vous-même, à la limite. C'est pas désherber chimiquement vous-même. Non.
Oui,
c'est désherber manuellement vous-même. Ou de façon, sans mettre de produits phyto. Parce qu'il y a un gars qui m'écoutait, un monsieur qui me posait plein de questions, il m'a dit. Ouais. Oh, il dit oui, c'est sûr que ça passe du temps, qu'il me dit comme ça. Parce que je lui expliquais ce que je faisais. Il dit oui, oui, mais effectivement, ça passe du temps, ça occupe. C'est une vision assez, assez simpliste des choses. Et en fait, normalement, c'est pour avancer vers quelque chose que tout le monde devrait faire. Et que, en fait, ils prennent ça pour un petit amusement. Donc bon, voilà, il y a plein de choses et donc il faut communiquer sur la ville d'Orléans a tout intérêt d'ailleurs à communiquer sur ce qu'il fait, pour expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait, etc. quoi. Parce que c'est vrai que les produits phyto, c'est pas une solution. Même s'ils disent que la pollution ça vient pas d'eux, c'est pas logique qu'une ville traite.
Non, puis avec la Loire à côté, etc., avec les eaux de pluie, l'infiltration...
Mais pourquoi traite-t-il ? Parce que bon, c'est quelque chose normalement. C'est pas qu'ils ont suffisamment de monde, c'est que normalement ils doivent toujours, on doit pouvoir trouver des solutions pour qu'ils aient pas besoin de traiter et que ça leur prenne pas plus de temps. Il faut simplement réfléchir différemment.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des habitudes.
Il faut concevoir les choses pour pas avoir besoin de traiter. C'est simple. Parce que de toute façon, les produits, vous en mettez sur un trottoir, il y a quelqu'un qui se casse la figure avant que ça soit sec, qui se déchire la peau, et, le produit rentre dans le sang. Les désherbants, tout produit, de toute façon même les produits ménagers, les gens n'en sont pas conscients, tout produit chimique, que ce soit un produit ménager ou un produit phytosanitaire, c'est dangereux. Il y a plein de choses qu'on en découvrira certainement les problèmes après, quand il sera trop tard, comme on commence même, ça fait un petit bout de temps, à avoir des informations sur l'effet des produits phytosanitaires. Des gens qui sont qui souffrent de Parkinson ou Alzheimer, je sais pas, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Rien n'est anodin.
Non, maintenant j'ai un problème pour ma question suivante, parce que c'est tellement varié que si je vous demande de me décrire une journée de travail typique, il n'y a peut-être pas de journée typique, mais vous faites par exemple du matin jusqu'au soir à peu près.
Ce que je fais le plus souvent, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est des suivis de culture. Donc je visitais donc aussi bien en arboriculture qu'en légumes le plus souvent. Je vais visiter des exploitations, des parcelles de légumes ou d'arbos et Et je vais voir si je trouve des insectes, des prédateurs, des ravageurs. Mmh. Parce que je vais aussi voir les bonnes bêtes. Je signale quand il y a des bonnes bêtes. Donc prédateurs ou auxiliaires des cultures, ils sont donc les ravageurs. Et puis les maladies en présence, sinon les faire identifier. Ça, c'est déjà une... Je fais de la modélisation aussi. Dans la semaine, c'est quelque chose d'assez courant. La modélisation, il y a des modèles de développement de champignons et d'insectes qui ont été écrits sur informatique. Et en fait, qui ont été écrits, décrits, pour qu'on sache en fait quelles conditions seraient favorables ou défavorables à leurs évolutions. Donc beaucoup basé sur des données météo, et donc je récupère des données météo et j'intègre dans ces modèles, et je les fais tourner, et du coup je vois ce qu'il en est, s'il y a un risque, s'il n'y a pas de risque, et j'envoie aux différentes personnes qui s'occupent des différentes cultures concernées. Qu'est-ce que je fais d'autre?
Le labo.
Le labo, bah ça c'est ponctuel, ça dépend du moment. Donc au moment où je vous avais eu au téléphone, c'était quelque chose que je faisais une à deux fois par semaine, des fois trois fois par semaine. En ce moment, bah ça, cette partie-là est finie, mais du coup, là, il n'y a pas très longtemps, je faisais des identifications de mouches. Là, je suis en cours, mais c'est plus moi qui normalement m'en occupe, c'est ma collègue. Il faut que je m'arrange pour que ce soit elle qui le fasse. Je fais des inventaires de flore, comme je vous ai expliqué. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais d'autre? Une journée typique, ça n'existe pas. ça m'arrive de faire des commandes de produits, de préparer des commandes de produits, de phéromones, de choses comme ça. Enfin, c'est des produits. C'est par rapport à des pièges. Pour des suivis de pièges, on met en place des pièges à phéromones qui sont censés attirer les mâles par des petits bouts de plastique sur lesquels on fait tomber quelques gouttes d'une phéromone qui a été refabriquée et qui correspond normalement à des phéromones naturelles, qui reproduisent des phéromones naturelles que les femelles développent pour attirer les mâles pour la reproduction. Mmh. Et donc comme ça on met des pièges en place et on récupère les mâles, et en fonction des... il y a des seuils de nuisibilité qui sont en fonction de du nombre d'insectes qu'on a eu dans les pièges.
Et vous rentrez chez vous de bonne heure ou plutôt tard le soir?
En ce moment c'est pas très calé, donc c'est pas très tôt. J'espère que ça sera bientôt calé. Parce que pour l'instant j'arrive pas à faire tous mes producteurs, donc et vu que j'ai encore quelques petits soucis, et je m'occupe aussi d'informatique, donc quand tout se mélange et veut pas du tout aller, et donc dernièrement on nous a installé un certain nombre de micros, donc le lendemain j'avais des soucis parce que ça ne voulait pas aller, donc plutôt que d'aller faire ce que j'avais à faire, j'étais au bureau, et donc après derrière il fallait que je fasse ce que j'avais à faire ce que j'aurais dû faire dans la journée, ce qui fait que bon, j'avais distribué du travail pour ne pas avoir à le faire, et du coup j'ai pas pu, parce que vu que ça avait changé entre deux par rapport à ce que je lui ai expliqué, elle aurait été un peu embêtée. Donc voilà.
Et donc quand vous ne faites pas tout ce que vous faites, au niveau des loisirs?
Mes loisirs,
que faites-vous?
Alors c'est beaucoup, beaucoup tourné vers le chant, la musique. La musique en général, je fais le mardi soir, normalement j'ai mes cours de djembé, sauf pendant les congés scolaires. Donc je suis avec un petit groupe de jeunes et de moins jeunes. Il y a deux jeunes de 17 ans, parce que la plus jeune est partie, elle a arrêté, elle est dans sa période adolescence, donc... et puis leur maman... Donc, une personne qui a 50 et quelques années, et puis l'autre qui a 45-7 ans, voilà, plus notre prof, et moi. Donc là, on est un tout petit groupe, on s'entend très bien. Enfin, notre prof nous trouve un peu dissipés. C'est le seul homme avec plein de nanas, mais il a beaucoup d'humour, donc c'est très sympa. Et voilà, donc ça, c'est les soirées du mardi. Et puis sinon, je fais partie de deux autres groupes. Deux groupes de gospel. Mmh. Un qui est plus ou moins en train de un peu de changer d'aspect, de changer parce que ça change un peu dans les formes et que notre chef de chœur a défini qu'elle était un peu fatiguée, un peu, elle a aussi trop de choses qu'elle veut faire, donc du coup ça prend un aspect un peu différent. Mais donc on fait toujours des répètes et par contre on voit peut-être pour avoir un répertoire peut-être aussi avec à partir vers d'autres choses ou peut-être s'ouvrir à d'autres choses, donc du coup dans des conditions peut-être un peu différentes, parce que là avec la chef de chœur on demandait de nous faire des arrangements personnalisés. Et donc un autre groupe qui est un autre groupe de gospel, donc qui lui, ça fait depuis beaucoup plus longtemps que j'en fais partie. J'avais pris des cours de chant et avec ma prof, finalement, on a monté un groupe. Un groupe de gospel. Donc j'ai pris des cours de chant. Ça fait un bout de temps de ça. 97 ou 98, puis on est parti à faire un groupe à partir de 2000 où on avait vraiment donné un nom au groupe et on a fait quelques petits concerts depuis, un certain nombre de mariages également, on fait un ou deux concerts par an et puis je sais pas, une dizaine, peut-être pas autant, moins que ça, 5 ou 6 mariages dans l'année, quoi, en fonction. Et ma foi, voilà. Et donc là, avec des gens à des professions des fois très différentes, qui n'ont rien à voir, c'est amusant. Parce que du coup, c'est. On s'apprécie tous et on reste dans le groupe aussi bien pour la chef de chœur qu'à une énergie folle et qui nous pousse toujours un peu. Et donc ça, c'est les répètes du jeudi qui finissent par plus être le jeudi. En ce moment, c'est un peu en fonction. Parce que donc elle, c'est une professionnelle du chant. Elle est professionnelle, enfin du chant, pas du chant, elle est dans la profession, elle est intermittente du spectacle et elle fait ça un peu en plus à côté, quoi. Ce qui fait que, bah après, c'est un petit peu, en ce moment, c'est un petit peu selon ses disponibilités.
Ah oui, ça fonctionne.
Voilà. Donc avant, on essayait d'être assez bien jeudi, mais bon, le problème, c'est que souvent le jeudi, elle peut avoir des choses à faire par rapport à d'autres activités, parce que le jeudi c'est aussi un soir qui peut bien s'utiliser en tant qu'intermittent du spectacle, donc pour éviter de perdre, quand elle nous fait des répètes, de perdre des cachets, donc on essaye de jongler pour pas que ça la dérange non plus, donc voilà. Et puis là on va faire un disque. Donc on doit enregistrer ce tantôt. Ah. Donc j'ai travaillé hier et ce matin, du coup j'étais pas trop en avance. Parce qu'il reste du temps, vu que j'étais très très à la bourre pour tout le travail, j'avais pas trop bien travaillé dernièrement. Donc bon.
Donc c'est des chants gospel que vous avez enregistré.
Tout à fait.
C'est le début de la gloire.
Je sais pas. Moi, on avait fait plein de choses avec elle. J'avais fait partie d'un groupe de jazz. On a monté une comédie musicale avec elle. Parce que elle est pas spécifiquement gospel, elle est plutôt jazz. Et à un moment donné, elle avait avait toujours rêvé de monter une comédie musicale, donc elle l'a montée. Elle l'a montée avec nous et on a fait le spectacle 1, 2, 3, 4, 5 fois. Dont 3 fois Zénith d'Orléans quand même. Une comédie musicale swing, exactement, pas tout à fait jazz, un peu plus spécifique. Swing, et puis bon, on s'amusait comme des petits fous. C'était une énergie folle aussi là-dedans.
Oui, sûrement, oui.
On n'avait plus l'impression d'avoir de week-end. Parce que les samedis, les dimanches, c'était les répètes, mais c'était. C'était une sacrée épopée, mais c'était très très intéressant de vivre ça aussi.
Donc le week-end, c'est plutôt la musique alors.
Oh oui. Oui, oui, beaucoup. Pas systématiquement en ce moment, pas trop là. Enfin, j'essaye. Parce que c'est plutôt essayer de récupérer de ma semaine.
Oui, aussi.
En ce moment, oui, c'est plutôt ça, essayer de récupérer de ma semaine.
Et vous arrivez à prendre des vacances quand même à partir
Je n'ai pris en février, là j'ai pris une semaine. Mais pas là, là, non, j'ai pas pu là. Non, ma chef attendait de valider toutes les dates. Elle disait, tout le monde n'a pas pris ses congés, j'attends des dates. Tout le monde n'a pas pris ses congés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on est obligé tous de prendre des congés. Parce que si on est obligé, là je vais avoir du mal. Qui c'est qui va faire mon travail?
C'est vrai que ça devient fou pratiquement partout maintenant. Les gens redoutent le moment où on leur demandait de partir en vacances parce qu'ils se disent si je pars, je vais pas pouvoir de toute façon me reposer parce que je penserai à tout ce qui va me rester à faire.
Mais bon, j'ai vu qu'il y en avait qui s'arrangeaient. Ben, quand ils sont pas là, ils font pas. Point.
Oui, c'est une façon aussi.
Voilà, ben, je me suis dit tiens, pourquoi j'ai pas fait ça? Je peux pas. Parce que moi, j'ai des trucs qui se passent sur le terrain là et si je pars, c'est un peu embêtant. Je me suis dit, ben c'est super, les autres, ils se posent pas, apparemment pas de questions. Bon.
Et si vous gagniez au loto, par exemple, quelles vacances de rêve auriez-vous, souhaiteriez-vous partir ou faire quelque chose de spécial?
Si je gagnais au loto, je joue pas du tout au loto. J'aime pas les jeux de hasard. Parce que le problème, c'est que pour avoir une chance, on en a laissé tomber combien?
Oui, on a dépensé combien aussi?
Oui. Et oh, si j'ai gagné au loto. Si j'ai gagné au loto. J'ai même pas envie de faire un voyage, ça me dit trop rien. Je changerais peut-être d'avis si je gagnais réellement l'auto, j'en sais rien. Ça serait plutôt. Moi, je profiterais pour aller voir tous les copains. Chose que j'ai pas le temps de faire actuellement. Et puis. Ah, je sais pas. Non, je verrais plutôt de m'acheter une maison. Mmh. Je serais plus trouver quelque chose de plus stable que de partir dans des trucs. Enfin, je sais pas. Ça...
Mmh. Oui, comme quoi votre vie généralement vous satisfait.
Oui, oui, oui. Mais ça serait plutôt de me trouver un truc avec un grand espace, un jardin. Parce que là, on a un bout de jardin devant, mais qui est qu'au voisin. Qui s'en occupe d'ailleurs pas très bien, puis une cour où tout le monde veut mettre son grain de sel et du coup moi ça me plaît pas non plus. Surtout quand on m'arrache mes plantes.
Ah oui, c'est
et que on dit qu'il y a de la merde partout dans la cour alors que c'est de la terre. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à supporter les derniers arrivés, mais bon. On a une vision un peu différente des choses et très différente, c'est pas un peu, c'est très différent des choses. Et quand on dit d'un bidon de 5 litres de javel dehors pour désinfecter, moi ça me paraît complètement fou quoi. Mais bon, a priori. Et ça serait plutôt ça, c'est me débarrasser des contingences actuelles. Ce serait... ça serait plus ça, mon style, que d'aller chercher, d'aller faire un voyage. Bah, ça serait un voyage, oui, mais bon, pas spécialement à l'étranger, je sais pas. J'aime bien mon petit chez moi. Je suis un peu comme mon père, je ne veux pas partir.
Et au niveau de tout ce qui est télé, radio, journaux, vous avez le temps?
Alors, journaux, très peu. Parce que le peu que je lis, c'est plutôt des journaux agricoles, du coup. Parce que, en fait, non, bon, je suis censée me maintenir avec un certain niveau d'information. Donc, ça passe plutôt par les journaux du boulot. La radio, quand j'ai le temps. C'est-à-dire que quand j'ai pas un truc à travailler, à écouter et à me relancer dans la voiture X fois pour travailler les voies pour le peu de temps que j'ai, les trajets, c'est bien les trajets. Et en fait, les informations, quand je regarde la télé et que je regarde les informations, c'est plus pour me descendre le moral. Donc quand j'entends tout ce qui se passe, ça me... On a l'impression d'être carrément sur notre planète et ça me stresse, ça m'agace plus qu'autre chose quand j'entends des trucs, c'est... Bon. Donc il y a des moments où je vais écouter beaucoup la radio, écouter ce qui se passe, puis d'autres fois quand j'entends des trucs, je vais faire des arrêts sur image pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que... Ah, t'as entendu parler de ça? Non, enfin, peut-être que je réécoute les infos quand même. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Donc bon, je suis des fois un peu à côté de la plaque par rapport à tout ce qui se passe. Mmh. Bon, c'est un peu bizarre, hein.
Et pour revenir sur Orléans, donc vous m'avez dit les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est niet, vous n'y allez pas, mais ce qui a été fait, les embellissements des bords de Loire, les quais, ça vous paraît bien ça?
Ah oui, oui, tout à fait, ça je vais me balader, mais ouais, bah, les vélos non. mais des balades en bordure de Loire, oui, dès que je peux, c'est ça mon souci, c'est dès que je peux, parce qu'il y a plein de choses sympas à voir. Surtout en bordure de Loire, il y a ça attire quand même pas mal de petites bêtes, donc ça grouille des oiseaux, il y a plein de choses à voir. J'ai regardé, il y avait des oies pas sauvages du tout qui s'étaient croisées avec des oies sauvages, ça donnait des trucs assez amusants. Et elles faisaient un barouf comme s'ils étaient dans leur basse-cour. Et je me suis dit, mais c'est dingue, tout le monde passe à côté, là, ils ne voient même pas qu'il y a plein d'oies qui ne sont pas sauvages. Puis je me suis dit, après coup, mais peut-être qu'ils ne savent pas que c'est des oies qui ne sont pas sauvages. Les oies blanches.
Oui, c'est du côté justement de Saint-Marceau, là, oui. Pas du côté des quais aménagés, de l'autre côté. C'est vrai que moi, je passe en vélo, etc. Et on voit, il y a des oies sauvages qui ont vraiment une couleur spéciale. Il y a des oies blanches. Et voilà. On les fait comme si elles étaient dans leur basse-cour. Et quand on passe, elles ne sont pas contentes.
C'est des oies qui ne sont pas sauvages. Elles sont parties d'ailleurs. Et il y a les croisements. Il y avait des jeunes. Puisqu'en fait, elles commencent à avoir des stries sur les ailes. Comme les autres, avec des ailes un peu grises. Ouais. Je les ai prises en photo de loin. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc, du coup, c'est sur des photos que j'ai vu que...
Les caractéristiques des deux, en fait.
Ouais, mais elles sont encore plus vers le blanc, les blanches, que vers les oies sauvages. Parce que les oies sauvages sont... il y en a plusieurs sortes. Mais celles qui sont là, elles doivent être un peu beige et grises. Ouais. Avec sur le haut de l'aile, je crois que ça doit être un peu noir. Et donc là, elles commencent juste à avoir quelques barres blanches sur les ailes. Donc ça, je suppose que c'est la génération d'après. Mais il y avait quand même plein d'oies sur ce bout d'île qui est pas très loin du pont Georges V. Oui, c'est le pont royal. Et c'est bizarre. Puis tout le monde qui passe, il n'y a personne qui voit que c'est bizarre. Alors j'étais là, bon, bah. Et après, effectivement, je me suis dit, elles ne sont pas là d'aujourd'hui, quoi. Elles ne sont pas là d'aujourd'hui. Mais bon, il y a quand même plein de vie. Et j'ai vu des petits canards, des petits.
Et
Oui, mais là c'était carrément des petits canards, et puis il y avait des gens qui passaient avec des chiens. Je dis, méfiez-vous, il y a quand même des canetons là, avec deux chiens de chasse qui venaient voir juste en bordure, alors que juste avant j'avais vu un petit canard. Je dis, méfiez-vous, mais je suis pas sûre qu'ils aient compris ce que je voulais dire. Bah, éviter que votre chien il bouffe les canetons, c'est dans ce sens là. Je sais pas d'ailleurs si c'est un caneton ou un oison, mais je pense plutôt caneton. Mais bon,
et par rapport à la caravane de Loire, au festival de Loire, ça vous intéresse, vous trouvez ça bien
Bah, je trouvais ça sympa, mais à part que c'est toujours pareil, quand ça passe, ça devient incirculable, non seulement incirculable, mais ingarable. C'est ce qui met beaucoup de bémol dans l'histoire, parce que s'il faut faire le tour 36 fois, ou avoir, si on y va, avoir à mettre la bagnole de plomb dans mon parking, et puis se retrouver avec une note de parking, moi ça me coupe vite les jambes.
C'est vrai pour les riverains, quand on voit 10 jours avant, on ne peut plus rien faire parce qu'il faut que les groupes déchargent les bateaux, les gabarres, etc.
C'est pareil, un sacré. Et ouais, puis après, pareil à la fin. C'est quand même des sacrés ennuis quand même. T'as un souci toi avec ta machine?
C'est pire en pire. Je vais voir, je retourne ma facture parce que c'est encore sous garantie. Parce
que là, je crois que t'avais 2 ans. Hein.
Non, 5 ans.
Okay. 5 ans, super.
Je sais pas, du coup maintenant je l'ai, ça fait un mois.
Hein. Oh non, pas 5 ans.
Je l'ai acheté encore avec.
Oui, mais ça fait pas 5 ans.
Ah bah, je crois que c'est 2005 ou 2006. Hein. 2005, ça serait cette année déjà. Ça,
dans ma tête, ça faisait pas 5 ans, mais bon. Vérifie le plus vite possible.
De toute façon, il vient de faire des os, il va venir
le
faire venir.
Hein, ouais. Ouais. Désolée.
Non. Oh, on va être coupé, j'espère.
Ah bah non, ouais. Bah non, tu seras pas coupé au montage.
Ah, ouais. Donc là, j'ai une question sur la rumeur d'Orléans. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous pouvez me dire quelque chose. Ouais.
Quoi, qu'est-ce que tu dis?
Les chiens d'Orléans, vous avez pas dit.
Peut-être que vous
n'êtes
pas sympa.
Voilà. Non, la rumeur d'Orléans, non, ça ne me dit rien, moi.
Dans les années 70, les jeunes filles qui étaient soi-disant enlevées dans les magasins.
Ah, c'était ça la rumeur.
Elles descendaient dans les cabines d'essayage et elles étaient kidnappées.
Oui, bah, je ne me rappelais même pas que c'était. Enfin, j'avais entendu parler de ça, mais sans plus. Donc, non, ça ne me dit trop rien.
Non, c'est une question qu'on a et ça dépend. Puis ça dépend de l'âge des gens, ça dépend s'ils ont vécu à Orléans ou pas.
Ben non.
Donc certaines personnes sont très bien faites et peuvent tout expliquer, et d'autres sont un peu.
Donc j'en avais effectivement entendu parler, je ne me rappelais plus que ça correspondait à ça, mais ben sans plus, j'ai dû en entendre parler une fois, et depuis j'en ai un peu. Et puis ben, vu que c'est pas moi qui vais aller dans les cabines d'essayage dans les centres-villes.
Ça ne vous embête pas trop.
Oui. Bah, du coup, ça m'a pas maintenu ça à l'esprit. Donc,
Et par rapport à l'accueil des Orléanais, c'est vrai que cette réputation de gens qui ne sont pas tellement sympathiques, accueillants, chaleureux.
Orléans, c'est une ville un peu particulière. Parce que quand on voit Tours, etc., avec tous les étudiants, ça met une ambiance, ça met une activité, ça, on a l'impression que ça bouge. Il y a plein de choses du coup qui se font au niveau musical, au niveau des soirées, etc., etc. Orléans, pour ça, ça a l'air beaucoup plus. Beaucoup moins vif, beaucoup moins. Et les trois quarts du temps, quand on rencontre des gens et qu'en fait on voit qu'il y a de l'activité, etc., quand on s'intéresse à eux et qu'on leur pose la question, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas d'Orléans.
Ah, d'accord.
Donc les trois quarts du temps, nous, quand donc, au tout début, dans les premières années où j'étais sur Orléans, sortait pas mal avec les copains du boulot et autres, surtout copains du boulot. Et en fait, les trois quarts du temps, les gens avec qui on se retrouvait et que du coup on faisait connaissance, c'était jamais des gens d'Orléans. Donc en fait, on avait l'impression qu'effectivement il y avait une activité, mais pas avec les gens d'Orléans. et que en fait, est-ce que c'est spécifique à Orléans, mais que du coup en fait l'activité elle existe, mais elle est plus discrète et pas du tout dans le centre d'Orléans, pas du tout. Donc du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Il y a des choses qui se font sur Léon, mais par rapport à la multitude qui pourrait y avoir, comme on peut voir des activités très, des trucs très 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 actifs, très très diversifiés, etc. sur Tours, et qu'à Orléans c'est beaucoup moins riche. Bon, l'ennui c'est que moi, depuis, je me suis mis mes propres activités et que les trois quarts du temps, de toute façon, je ne suis pas non plus en ville. Ou alors, si j'y suis, c'est pour faire un truc, pour une animation, pour. Voilà. Mmh. Donc, du coup, je suis dans. Mais cette réputation, je l'ai entendu parler. Et j'ai eu l'impression de la vivre aussi et d'effectivement de penser exactement la même chose.
Et par rapport à Paris, c'est un avantage ou un inconvénient d'être
alors Paris,
d'être proche de Paris. Mmh. Dire vous n'y allez pas
très peu,
rarement,
ou... très peu, parce que de toute façon, dès qu'il faut monter, c'est toujours le bazar. Je pense que c'est plus un inconvénient parce que du coup, plutôt que de faire ça sur Orléans, tout de suite, il faut monter sur Paris pour avoir le truc. Mmh. Plus on s'éloigne de Paris, plus il peut y avoir des activités qui sont spécifiques parce qu'on est loin de Paris. Par exemple, à Tours, je pense qu'il y a plus de choses qui se font. Mais parce que vu que c'est suffisamment loin de Paris...
Il y a moins de concurrence.
Hein. Voilà, il y a moins de concurrence.
Mais donc vous, c'est pas tout... Tous les deux jours que vous montez à Paris pour...
Ah, ça, c'est certainement pas. Rien que de me dire que si je veux aller à un concert de tel, d'un tel, il faut que je monte sur Paris, je vais me passer du concert d'un tel. Je vais me trouver d'autres occupations. D'ailleurs, j'ai souvent pas le temps. Donc, de toute façon, ça facilite déjà d'emblée, j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça.
Donc là, j'ai une petite série de questions pour finir sur les représentations linguistiques, sur la façon que les gens ont de parler. Donc par exemple, à Orléans même, est-ce qu'il y a une façon particulière de parler? Est-ce qu'il y a un accent particulier? Ou est-ce qu'il faut plutôt descendre justement en Sologne pour avoir des... ou monter en Beauce pour avoir des parlers
Sur Orléans, quand on est dans la ville d'Orléans... j'ai pas jamais trop entendu d'accent spécifique. Quand on va plus dans la campagne, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est par rapport. Du coup, on retrouve les racines des patois qu'il y a alentour. Puis, du coup, moi, vu que je suis originaire de pas très très loin. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de différent de ce que j'avais sur d'autres villes, sur Bourges ou sur Bourges ou Vierzon, Châteauroux, Blois. J'ai pas eu l'impression d'avoir. Bon, vu que je suis de proximité, j'ai pas entendu d'accent spécifique sur Orléans.
Ouais, parce que justement, c'était une des raisons pour lesquelles les Britanniques étaient venus faire leur étude dans la région, c'est parce que la région Val-de-Loire, Tours, Orléans, on est censé parler avec un accent neutre, ni du Midi, ni parisien. C'est l'endroit avec le moins d'accent, donc c'est ce qui les intéressait pour pas que ça rende trop difficile la compréhension.
D'accord. Ah oui.
Et dans le quartier, là, y a, les gens ne parlent que français, ou est-ce qu'il y a des communautés qui parleraient d'autres langues?
Est-ce qu'on peut vraiment dire des communautés? Je ne sais pas. Parce que effectivement, il y a des gens qui parlent leur langue natale ou de leurs parents, parce que c'est souvent plus eux qui sont arrivés, c'est leurs parents et qui gardent pour maintenir. Mais est-ce que c'est vraiment des communautés? On a toujours les mêmes choses, hein. Quand on a des gens qui sont d'origine portugaise ou espagnole, les parents continuent à parler la langue la langue d'origine, même si c'est pas leurs origines, c'est l'origine de leurs parents, réellement, mais bon, ils ont maintenu... Donc est-ce qu'on peut vraiment dire communauté ici Bon, puis vu que je connais vachement mes voisins, j'ai un petit peu de mal à le dire. On a quelques maghrébins dans le secteur, comme un petit peu partout. On doit avoir quelques portugais et espagnols. On en croise de temps en temps dans les petits supermarchés. On a un petit supermarché là juste à côté. Ouais. J'ai oublié de le dire, Leader Price. Donc je pense que ça fait un peu partout la même chose. Est-ce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une grosse communauté d'une nationalité particulière installée juste à côté.
Et par rapport à la façon de parler des gens, alors en général, donc que ce soit à la radio, à la télé, est-ce qu'ils parlent de mieux en mieux ou de moins en moins bien, je sais pas, au niveau des accords, des liaisons, est-ce que ça s'est dégradé au fil du temps ou...
On entend bien les accents des faubourgs parisiens. Enfin, des faubourgs, c'est pas vraiment des faubourgs. Ils ont tout à fait cette langue-là, ils l'ont tout à fait apprise sans problème. Ils l'ont bien retenue. Mmh. Et qu'il y a des moments où on a l'impression de croiser. Mais bon, on finit par les intégrer, même si des fois on a oublié. Enfin, on a du mal à intégrer quelques mots qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'on peut dire qu'ils parlent bien, qu'ils parlent pas bien? Ils en ont fait leur langage à eux et que ils ont essayé de rapper peut-être.
Oui, c'est plus du côté du langage.
C'est plus du côté du langage jeune qu'autre chose, parce que je pense que c'est le langage qu'on retrouve dans toutes les grandes cités, que ce soit parisienne ou autre, qu'on retrouve, c'est pas quelque chose de spécifique à ici.
Ouais. Oui, avant c'était peut-être plus une région, enfin de banlieue, puis maintenant en fait c'est tous les jeunes, qu'ils soient de banlieue ou pas, ils ont cette façon de parler.
Oui, parce qu'ils ont trouvé que ça correspondait à ce qu'ils avaient. Donc quand on se retrouve dans n'importe quelle cité avec les populations qui sont bien d'origine de cette cité, on retrouve le même accent que sur Paris. Ils vont pas avoir pris l'accent du midi, mais
ce sera amusant, ça correspond à une façon de parler.
Ils ont pas du tout pris l'accent du midi, ils la trouvent pas drôle celle-là. Cette langue-là, mais par contre, oui, il n'y a pas de problème, ils ont bien l'accent des cités.
Et vraiment, pour finir, là c'est plus une question culinaire pour savoir si il y a un plat particulier de la région, donc soit sur Orléans, soit région Val-de-Loire, est-ce qu'il y a quelque chose de typique du coin?
Pitonnier.
Ouais.
Quelque chose de typique d'Orléans. Quelque chose de typique. Ah, il y a les cotignacs. Bon, je trouve pas ça super. Typique. Sur Orléans.
Ou la région.
Ah, la région, plein de choses qui viennent à l'esprit, mais Orléans même, il y a les bières de. Il y a les bières de. Du Gâtinais, il y a les miels du Gâtinais, il y a les miels de Sologne, il y a les macarons de Chartres, il y a le pâté de Pâques Berrichon, il y a le pâté Berrichon, les spécialités des trucs du coin, oui, il y a les andouillettes de Jargeau. Les pralines de Montargis, d'ailleurs c'est les andouilles de Jargeau, c'est pas les andouillettes, les andouilles de Jargeau. Il y a en spécialité, on aime bien les spécialités, on aime bien essayer de retrouver les trucs spécifiques qui sont vraiment faits, pas forcément achetés en grande surface, parce que souvent en fait ça perd un peu de son identité. Après ça dépend où, mais... Il y a plein de choses qui perdent son identité quand il se retrouve en grande surface. Il y a tout ce qui est Mais il y en a une. Y en a... Mais alors, d'Orléans même, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ouais. À part les Cotignac.
Ouais, tout le monde dit ça, mais en fait, c'est. Les gens consomment beaucoup ou c'est vraiment anecdotique? C'est de la pâte de coin, en fait.
Oui. Oui, tout à fait, c'est de la pâte de coin. Si, il y a la. Il y a la. Il y a la poire d'olivier. C'est de la gnôle. Qu'est-ce quelque chose qui est vraiment spécifique de Bordeaux? Et puis en plus, c'est mon Bordeaux, c'est livre. quelque chose qui est vraiment, vraiment spécifique d'ici.
Ouais, c'est plus la région.
Ah oui, au niveau de la région, il y a plein, plein de choses. Il y a tous les fromages. Si, il y a les fromages, il y a le cendré, mais il n'est encore pas d'Orléans. Il y a le cendré de Pithiviers. Et puis, il y a le. Comment il s'appelle le camembert aux herbes de Pithiviers. Mmh. Mais c'est encore pas d'Orléans. Hein. Mmh. Il y a. La saucisse du Perche. Il y a tous les fromages de chèvre, mais c'est toujours pas Orléans.
La bière d'Orléans du.
De Courtenay.
Ah non, il y a la joannique.
Ah, il y a la bière joannique. Donc la bière joannique, je ne connais pas.
Tu l'achètes à Auchan.
Ouais, mais bon, c'est vrai que vu que j'aime pas la bière. Mais bon, la bière de Courtenay, du Gâtinais, je la connaissais quand même.
Et donc là, vraiment, la dernière question, une question un peu bizarre. Enfin, on a vraiment repris ça du questionnaire des Anglais. Ils voulaient avoir une recette, donc avec différentes étapes, et ils posaient la question de la recette de l'omelette. Donc, je vous repose la même question. Donc, si je vous demande comment vous faites une omelette, qu'est-ce que vous me racontez?
Une omelette, ben, ça dépend si elle est simple ou pas. J'aime bien l'omelette au crouton. Donc, dans ces cas-là, moi, je prends des croûtons, du pain que je vais faire en tranches très grossières, avec des morceaux un peu épais. Les croûtons, je les mets à griller dans la poêle. Ensuite, je les mets de côté. Je vais faire mon omelette, préparer les omelettes. Donc, en général, quand je la fais, c'est pour chez mes parents, donc au moins 3 ou 4 personnes, donc je vais mettre une dizaine d'œufs que je vais fouetter fortement, le sel en dernier, plutôt du gros sel, je refouette derrière, et puis je vais mettre de l'huile à chauffer, donc plutôt, moi je suis plutôt mère huile dans la poêle. Je fais chauffer pour que ça soit vraiment prêt à que ça soit bien, la poêle bien chaude. Je remets mes croûtons juste avant. Je mets mon omelette dedans. Enfin mes œufs battus dedans. Et puis je vais la faire plutôt baveuse. Donc je déplace pour faire cuire et pas trop cuire très rapidement. Et puis dès qu'en fait tout est pris dessous et j'attends pas trop longtemps, je fais presque liquide au-dessus et j'arrête tout et je mets ma petite ciboulette par-dessus. J'aime bien avec la ciboulette. Par contre, effectivement, j'ai oublié sel et poivre également. Elle est très simple.
Mais... Ben voilà, une bonne omelette. Ouais. Bon, c'était la dernière question. Donc, merci d'avoir répondu à toutes mes questions indiscrètes. Et la dernière étape, c'est de vous faire remplir des petits. Enfin, c'est moi qui vais remplir un questionnaire et puis vous faire signer une autorisation d'utilisation de ce que vous avez dit.
D'accord.
Donc, en fait, tout va être anonymé, c'est-à-dire vous n'aurez plus votre nom, mais ça sera bippé sur la bande sonore, et puis vous aurez un numéro de témoin avec des lettres, des chiffres, etc. Et puis après, c'est savoir si vous êtes autorisé à utiliser ça pour faire de la recherche à terme.
Ça sera
mis sur